Donc bah voilà, on va parler donc de RSF 77 avec Yves. Bah peut-être commencer bien que RSF commence à être quand même pas mal connu, faire un petit rappel sur ce qu'est RSF et puis la manière dont ça a été fondé, l'objectif de RSF.
Alors, est-ce qu'il y a besoin de présenter RESF? Moi, je pense que oui, de toute façon, même si c'est connu. Donc, le réseau Éducation sans frontières, moi, je fais partie du 77, donc de Seine-et-Marne. Le réseau Éducation sans frontières est né en 2004 autour de luttes pour protéger des enfants dont les parents étaient sans papier et donc pour leur régularisation, pour éviter les expulsions. Donc c'est né à partir de là. Et puis ça a essaimé progressivement et maintenant il y a des collectifs RESF un peu partout en France et même dans les départements d'outre-mer. C'est un réseau, c'est-à-dire que c'est pas une association avec une structure pyramidale hiérarchique. En principe, il y a pas de chef. Et en fait, la détermination, c'est ceux qui ont à quelque chose à faire qu'ils font. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, on le fait. C'est extrêmement important. C'est le principe même de l'action. Au sens propre du terme.
Quelle coordination il y a entre les différents collectifs locaux? Il y a des réunions régulières? Comment ça se passe? Est-ce que vous faites des actions coordonnées au niveau national?
Alors, il y a effectivement de temps en temps des réunions nationales, mais très rarement. Par contre, on fonctionne énormément par Internet. C'est-à-dire que RESF n'existerait pas s'il n'y avait pas Internet. Parce que ça sert à plein de choses. Ça sert d'abord à faire circuler les informations. Ça sert aussi beaucoup dans les cas d'urgence, c'est-à-dire que ça permet de réagir très rapidement quand on est au courant d'une situation de quelqu'un qui s'est fait arrêter, qui est en procédure d'expulsion. Donc ça permet de réagir très vite, de mobiliser les gens, de voir quelles actions il y a à faire en particulier, et aussi de mobiliser les médias quand on peut, les élus locaux, parce que ça fonctionne aussi beaucoup, on fonctionne aussi beaucoup avec les élus locaux. Donc, je le répète, mais RESF n'existerait pas s'il n'y avait pas Internet.
D'accord.
Donc, c'est principalement ça. Et puis, évidemment, après, le deuxième volet, c'est les collectifs qui existent un peu partout.
Et donc là, tu parles vraiment de, on va dire, de situation d'urgence, de la réaction à l'urgence. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un travail plus de fond, éventuellement, je sais pas, peut-être.
Oui, parce qu'on n'est pas une organisation au sens politicien du terme. C'est-à-dire que quand on accompagne quelqu'un, on l'accompagne jusqu'au bout et on sait. Et de toute façon, dans les permanences, on le dit. Souvent et tout le temps même, ça prend du temps. Ça prend du temps, de l'énergie, mais il faut arriver à tenir. Là, par exemple, on a fait la semaine dernière, on a fait une fête à Ozoir-la-Ferrière, donc dans le 77, autour de trois personnes qui avaient été régularisées. Bon, il y en avait une, ça c'était relativement passé vite, on va dire 6 à 8 mois, mais il y en avait deux. Ça faisait 4 ans qu'on se battait, qu'il y avait eu des rassemblements, qu'il y avait eu des mobilisations dans le lycée où elles étaient, avec des hauts, des bas, mais ça faisait 4 ans. Donc c'est des procédures très longues et ça nécessite beaucoup d'énergie.
Donc là on parlait justement de ces deux cas. Est-ce qu'il y a des mobilisations emblématiques, on va dire, qui ont eu lieu donc dans le 77?
Moi je peux donner des tas de cas particuliers. En général, ça fonctionne quand il y a une osmose, quand tout marche en même temps. C'est-à-dire que je peux prendre un exemple. Il y a des Brésiliens à Tournan-en-Brie qui étaient tous les deux sans papier, et en fait, il y en a un qui travaillait au noir, évidemment, parce que, bon, comme souvent ça se passe, mais son patron voulait l'embaucher, et le patron est monté au créneau, l'a défendu auprès du tribunal, parce qu'il s'est fait arrêter, mis en centre de rétention, l'a défendu au tribunal, le maire de la commune s'est mobilisé concrètement aussi, l'école, parce qu'on fonctionne énormément avec les écoles, les parents d'élèves ont signé des pétitions de manière
pour les enfants de cette personne.
Absolument.
C'est une famille, évidemment.
Mais en général, enfin, disons la base du travail des RESF, c'est effectivement à partir des enfants de sans-papiers. Je dis tout simplement que les enfants n'ont pas besoin, jusqu'à leur majorité, ils n'ont pas besoin de papiers, mais par contre les parents, leurs parents qui sont sans-papiers, eux évidemment, ils ont besoin de papiers. Donc on fonctionne énormément avec les écoles. l'école, et on est surpris du fait que on peut être pessimiste comme ça, et puis quand on arrive et qu'on parle, c'est une des forces des RESF, c'est-à-dire que on parle d'un cas précis, de quelqu'un, d'un enfant dans une école, les parents connaissent l'enfant parce que c'est un copain de leur fils ou de leur fille, et ainsi de suite, et donc ils voient qui c'est, et ils se mobilisent relativement facilement pour défendre cette personne et pour aider à...
C'est quelque chose de très concret finalement.
Oui, oui, absolument. Et ça, c'est, je pense que c'est un des ressorts du succès des RSF. Oui, oui.
Et tu parlais d'un certain nombre de relais au niveau même des administrations, des institutions. Est-ce que vous avez facilement, c'est facile de travailler, je veux dire, avec les écoles, les instituts ou les profs?
C'est variable. C'est variable. Comme l'individu en général est variable.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il y a des directeurs ou directrices d'école qui sont super, qui se mobilisent, qui s'engagent vraiment. Et puis il y en a d'autres qui sont frileux et qui attendent le feu vert de l'inspection d'académie qui en général leur donne pas, mais bon, c'est quand même ça arrive, mais c'est pas fondamental, quoi.
Est-ce que vous avez peut-être quelques des techniques, je sais pas, pour réussir à contrer un petit peu
il y a deux choses, il y a ce que je disais, c'est-à-dire par l'intermédiaire des listes internet, parce que les listes internet, bon, servent comme je disais en cas d'urgence, mais elles servent aussi à échanger par rapport à des questions, parce que c'est y a pas un cas qui ressemble à un autre, donc on a des listes particulières où on peut poser des questions sur un cas particulier de quelqu'un d'un pays particulier où on n'a pas la réponse, où on n'a pas l'information parce qu'on n'est pas des juristes de formation, donc on pose la question, et en général dans la journée, parce que c'est une liste qui est nationale, dans la journée on a 3 ou 4 réponses et donc ça permet d'avancer.
Une sorte de mémoire un peu collective comme ça, des luttes qui
absolument
ont déjà eu lieu et qui...
Donc en fait il y a deux axes dans le travail, il y en a même plusieurs autres, mais dans le travail des RESF, c'est-à-dire les mobilisations publiques qu'on essaye de médiatiser. Alors je précise quand même toujours que on ne médiatise que sous l'aval de la personne, c'est-à-dire que on ne prend jamais nous l'initiative de d'une médiatisation de quelqu'un sans que elle soit d'accord. Donc ça c'est le côté public, l'aspect mobilisation qui est important, donc les écoles, les élus, quelquefois ça va même très loin puisque on va jusqu'aux aéroports, c'est-à-dire que quand quelqu'un est en procédure d'expulsion, on essaye d'aller discuter avec les passagers du vol,
oui,
où
d'accord.
On sait que la personne va être, et quelquefois ça marche.
Oui, il y a
pas
eu
tout
des,
le temps, il faut
on,
pas.
On a entendu parler plusieurs fois de rébellion un petit peu de passagers qui refusaient l'envol de l'avion,
oui,
ce genre de choses.
Là on a eu deux cas. Il n'y a pas très longtemps, de personnes, parce que des cas c'est un peu parler de gens comme ça, qui étaient emmenés à l'avion et qui avaient déjà fait des refus d'embarquer, mais qu'on ramenait encore, et par leur refus à eux et par leur la discussion avec les passagers, l'intervention des passagers dans l'avion, ça a permis, et du commandant de bord, parce qu'en général c'est le commandant de bord qui décide en dernier ressort, ça a permis qu'ils ne soient pas expulsés et qu'ils soient même libérés. Donc ça c'est le côté médiatique, donc dans les écoles on en a parlé, et puis il y a tout le côté plus obscur qui est les permanences, c'est-à-dire que pratiquement dans tous les collectifs, et notamment en Seine-et-Marne, il y en a toute une série. Il y a des permanences où les gens viennent, exposent leur cas, et puis on voit ensemble ce qu'on peut faire pour monter un dossier de demande de titre de séjour, et puis le déposer et le suivre, puisqu'on a maintenant des rapports, notamment dans le 77, on est arrivé à créer un rapport à peu près correct avec la préfecture sur un certain nombre de points. Ça ne veut pas dire que le 77 c'est le paradis, hein, loin de là. Mais on arrive quand même, les gens qu'on accompagne, on a maintenant un rapport un peu équilibré avec le bureau des étrangers de la préfecture.
D'accord, tu disais même d'ailleurs avant l'émission, on discutait, tu disais que vous aviez réussi un petit peu à changer certaines mentalités ou manières de penser, comportements au niveau des administrations localement quand même.
Le problème c'est que la loi, ce que je disais aussi, c'est que c'était pas forcément significatif de toute la France, parce que mine de rien, ça s'aggrave. Il y a qu'à voir. bon, je pense qu'on va en parler, mais la nouvelle loi sur l'immigration, la loi Besson 2, on va dire, les conditions s'aggravent de plus en plus. En plus, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, passe pas une semaine, c'est même pas une semaine, passe pas un jour sans
faire un appel du pied à l'extrême droite.
Absolument, absolument. La dernière déclaration qu'il a fait, c'est aujourd'hui ou hier, je pense, où il a dit que de toute façon, il allait augmenter le quota. Le chiffre des expulsions par an. C'est-à-dire que là, il y en a 29 000 de prévus et il veut encore augmenter la chose.
Est-ce que d'ailleurs, là, on parle un peu de politique du chiffre, est-ce que ça s'est ressenti vraiment concrètement sur le terrain avec, je sais pas, peut-être plus d'interventions de la police, des contrôles plus réguliers,
Oui. Il y a effectivement, non, mais ça, la politique du chiffre, on en a parlé, on en parle et on en parlera encore, mais c'est vraiment ça. En fait, c'est, on peut même aller plus loin. C'est une décision politique. Mm-hmm. C'est pas par rapport à l'immigration. Bon, on va peut-être pas aborder le problème de l'immigration en général, mais on peut quand même en dire deux mots. Mais c'est vraiment une décision politique dans le sens où l'immigration, d'abord, il y en a toujours eu. C'est nécessaire. 99% des travailleurs, des gens sans papiers sont des gens qui travaillent, donc ça veut dire que c'est nécessaire à l'économie. Ils occupent des postes qui sont pas des emplois fictifs, comme je vais pas citer de nom, mais donc ils travaillent, donc ils sont nécessaires à l'économie française. Et de tout temps, l'immigration a été même sans parler de la liberté de circulation au sens large du terme. Mais donc ils sont nécessaires. Donc c'est effectivement une décision politique, la restriction de l'immigration. C'est un renfermement, c'est un enfermement sur soi-même d'un pays, et puis c'est effectivement flatter le côté de droite ou d'extrême droite d'un certain nombre de personnes, quoi, en France.
Et dans d'autres pays, d'ailleurs.
Oui, et dans d'autres pays, malheureusement.
Et d'ailleurs, il y a des liens, peut-être, RESF avec des associations similaires à l'étranger?
Quelques-uns, pas énormément, mais il y a quelques-uns, notamment en Belgique, en particulier. Ouais. Il y a effectivement, je pense, c'est un domaine que je connais pas très bien, mais oui, il y a quand même, et puis il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a RESF à Mayotte et
nouveau département français, quand on sait qu'il y a quand même de gros problèmes de situation d'immigrés.
Et puis dans les départements d'outre-mer, oui.
D'accord. On parlait des techniques, peut-être toucher deux mots de vos parrainages républicains.
Oui, ça fait partie des actions publiques, on va dire. Oui, parce que est-ce que j'avais fini sur le côté le côté permanence ici.
D'accord. Sur le côté permanence. On donnera les coordonnées d'ailleurs de la permanence du 77.
Des permanences, pardon. Une série, oui.
On donnera ça fin d'interview.
Oui, le parrainage républicain, ça fait partie des actions publiques, symboliques. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est en général sous couvert d'une mairie qui accepte de parrainer, de faire un parrainage républicain. Et ça se déroule comme un mariage. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une cérémonie officielle avec les conseillers municipaux, le maire, un discours, la présentation des candidats. Et puis la délivrance d'un certificat de parrainage. Alors c'est symbolique, mais oui et non, parce que ça a pas de valeur juridique, évidemment. Mm-hmm. Mais par contre, ça montre d'abord l'intégration de la personne, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de gens qui sont là autour d'elle, qui la soutiennent, qui la protègent, qui l'accompagnent dans ses démarches de régularisation. Et en plus, en général, bon, quelquefois il y a des people qui sont parrains, mais en général, on s'arrange toujours pour qu'il y ait en même temps quelqu'un de connu et quelqu'un de moins connu, mais plus proche localement de la personne,
suivre le dossier.
Voilà, qui suivra et qui interviendra au cas, ce qui arrive régulièrement, malheureusement, où la personne qui a été parrainée a des problèmes. Donc ça, c'est vraiment c'est symbolique, mais ça a quand même une répercussion au niveau des communes ou des mm-hmm. Bon, ça s'est passé dans plein d'endroits en France et à Paris notamment. Le dernier parrainage s'est passé au conseil régional de jeunes majeurs sans papiers.
D'accord.
Scolarisés.
Ok. Bon, on va peut-être parler un peu plus précisément du 77. Donc notamment avec une personne un peu, je sais pas si on peut dire emblématique, en tout cas de la modification de, enfin avec la loi B, la nouvelle loi Besson. Donc un cas un peu particulier avec quelqu'un qui est donc assigné à résidence de manière avec une durée indéterminée.
Ça. C'est un monsieur qui s'appelle Francis Malonga et qui est congolais et qui a des enfants ici, une femme ici, qui est là depuis longtemps, et qui effectivement s'est fait arrêter, puis mis en centre de rétention au Mini-Lamelot, qui, je le rappelle, est au bord des pistes de l'aéroport Charles de Gaulle.
C'est rapide pour pouvoir les mettre dans l'avion.
Absolument, ouais, c'est très rapide. Et il est arrivé au bout de, jusqu'à maintenant c'était 32 jours, on va en parler tout à l'heure quand on parlera de la nouvelle loi Besson, ça va passer à 45 jours, mais jusqu'à maintenant, si les retenus n'étaient pas expulsés avant les 32 jours, ils sont libérés. Donc ça a été son cas, mais une chose complètement exceptionnelle et qui par contre se retrouve maintenant dans la nouvelle loi Besson, il a été assigné à résidence sans sans date limite. C'est-à-dire que voilà. Et ça c'est prévu, c'est effectivement prévu dans la voilà.
Et dans la loi, qu'est-ce qui est censé lever cette assignation à résidence?
C'est une
décision comme ça.
Là, en plus de ça, c'est très particulier parce que d'habitude, l'assignation à résidence est faite par ce qu'on appelle le juge des libertés et de la détention, qui intervient en général au début. Et là, pareil, on va en reparler parce que ça change dans la nouvelle loi. Intervient. Bon, par exemple, un sans-papier se fait arrêter.
Ouais.
Il va au commissariat, il est en garde à vue 24 heures, il est ensuite emmené en centre de rétention. Et au bout d'une journée, il est présenté devant le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Meaux. Et ça va changer. Et donc, qui juge des conditions d'arrestation et de détention et qui ou le libère, s'il a trouvé des choses qui vont pas, ou bien prolonge son séjour de 15 jours, puis de 15 jours, et ensuite, normalement, s'il n'est pas expulsé, s'ils n'ont pas trouvé un avion, s'il n'y a pas eu de laissez-passer du consulat du pays de la personne en question, il est libéré. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas de date limite. Donc c'est, ah oui, je disais que c'était particulier parce que d'habitude, l'assignation à résidence est faite par le juge des libertés de la détention, alors que là, l'assignation à résidence vient de la préfecture.
Mmh.
Et même, bon, il y a eu des recours, faits, il y a des juges au Conseil d'État, je crois, qui ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient ça.
Ah, d'accord. Et donc là on va peut-être sa situation à lui donc à Francis Malonga s'en est où actuellement? Il est vraiment
Disons qu'on est en train de, alors il y a en même temps des procédures judiciaires qui sont en cours, mais c'est des recours qui prennent 2 mois, 3 mois ou plus.
D'accord.
Donc pour l'instant il est toujours en principe assigné à résidence.
Ouais.
Et il y avait un laissez-passer qui avait été accordé par son consulat, donc il était convoqué pour être expulsé. Et bon, on sait pas où ça en est. D'une part, et d'autre part, ça c'est le côté juridique, on va dire, donc les recours en cours. Mais il y a aussi ce qu'on essaye de faire et de voir, de faire pression sur la préfecture de façon à ce qui sursoit à cette assignation à résidence en lui laissant le temps d'essayer de régulariser sa situation, quoi.
D'accord.
Mais ça demande des contacts avec la préfecture, des contacts avec les élus qui seront d'accord pour intervenir.
Un travail de longue haleine.
C'est en cours, oui. Donc, mais c'est en cours, oui.
On a un petit peu parlé donc de ce fameux centre de rétention du Mini-Lamelot, mais je pense qu'on va en discuter, on va en parler un peu plus précisément, puisque donc RSF 77 s'est associé avec la CIMAD pour créer un observatoire de ce centre de rétention.
Oui. En octobre 2010, effectivement, sous l'impulsion de la CIMAD, de la Ligue des droits de l'homme, des cercles de silence,
Que sont les cercles de silence?
Je vais te le dire comme tu veux. Du réseau Éducation sans frontières, de Turbulence, dont on va parler tout à l'heure, ou dont on a déjà parlé, ont créé ce qu'on appelle l'Observatoire citoyen de la rétention 77. Alors, juste une petite parenthèse, les cercles de silence, c'est une initiative qui est partie de religieux de Toulouse, si ma mémoire est exacte, et qui sont en fait comme leur nom l'indique, des cercles de silence, c'est-à-dire qui se réunissent à peu près tous les mois dans des endroits en général où il y a du monde qui passe,
ouais.
Et pendant une heure, ils font un cercle sans parler. Alors, en général... il faut quand même donner le but. Le but, c'est effectivement de réagir par rapport à l'enfermement et au centre de rétention.
Ah d'accord.
C'est-à-dire donc c'est une dénonciation.
Absolument.
Oui, c'est une dénonciation des centres de rétention et des conditions dans lesquelles sont traités les étrangers sans papier.
D'accord.
Donc c'est parti effectivement d'une congrégation religieuse et puis ça a essaimé et maintenant il y en a un peu partout. Il y en a un à Chelles dans le 77, je parle du 77, ouais. Il y en a à Paris, il y en a à Chelles dans le 77, il y en a à Melun, il y en a à Roissy, il y en a...
Ah, il y en a plusieurs dans le 77.
Je sais plus où encore. Il y en a plusieurs.
Et donc alors cet observatoire, revenons sur l'observatoire.
L'observatoire de la rétention, son but c'est... dans un premier temps, d'être présent auprès des retenus, des gens qui sont enfermés dans les centres de rétention, une présence humaine, parce que déjà c'est inadmissible que ces étrangers soient sans papier soient enfermés, puisqu'ils ont commis aucun délit. Donc d'être présent auprès d'eux, d'exercer une vigilance par rapport aux conditions d'arrestation, comment ils se sont fait arrêter, leur parcours, aux conditions de détention, c'est-à-dire si ils peuvent exercer leurs droits, s'ils peuvent exercer tous leurs droits, c'est-à-dire le téléphone, les visites, le médecin, les avocats, le l'ONG qui est partie prenante à l'intérieur du CRA. Donc ça c'est une première démarche.
Le CRA
c'est centre de rétention administratif. Tu as raison de le dire. Donc c'est le centre de rétention administratif du Ménilamlo. Okay. Donc une présence, essayer d'avoir une présence régulière au centre de rétention et aussi de rendre public quand on constate des dysfonctionnements, rendre public ces dysfonctionnements. C'est pas uniquement une enquête sociologique. Et c'est pas non plus uniquement une présence charitable auprès de.
Et donc qui a le droit de rentrer en tant que
tout le monde.
Dans un centre de
rétention, tout le monde.
Tout le monde peut rentrer.
Oui, oui.
D'accord.
Il suffit d'avoir le nom de la personne. Et d'avoir un papier d'identité.
D'accord.
Mais tout le monde a le droit aux visites.
Et donc au niveau de cet observatoire, comment ça se passe? On suit des personnes particulières ou est-ce que vous faites aussi des visites un peu de routine entre guillemets pour voir un peu comment ça se passe?
Oui, c'est un peu ça.
D'accord.
En essayant d'avoir une présence régulière, c'est ça qui est le plus important.
D'accord.
Quoi. Et puis de faire des rapports qu'on communique effectivement aux autres membres de l'observatoire. Ça c'est une chose. Et puis on fait aussi des initiatives publiques. Là, on en a fait une il y a très peu de temps, dont on peut parler.
On va parler du 18 mai, mais alors les rapports, ils sont rendus publics après ou comment ça se passe?
On verra. Non, je pense que, par exemple, ce que j'ai pas dit au niveau des cercles de silence, c'est que c'est effectivement un cercle de silence, mais en général, il y a diffusion en même temps au public d'un tract sur les centres de rétention.
D'accord.
qui donne des indications et des informations sur les centres de rétention. Okay. Oui.
Mais pour l'instant, l'observatoire n'a pas vocation à publier, on va dire, des rapports, rendre public des informations au sujet du Ménilamlo, si ou
Si. Par exemple, on peut parler des initiatives qui ont eu lieu donc le 18 mai.
Ouais.
On a fait deux rassemblements. Le premier au Ménilamlo, parce qu'au Ménilamlo, donc le Ménilamlo, c'est un centre de rétention qui existe déjà, et il y en a deux qui sont construits, neuf, qui sont pas encore utilisés, le Ménilamlo 2 et le Ménilamlo 3, qui sont plus grands, plus importants, puisqu'il y a 240 places, alors que l'autre, il y en a que 120 dans le premier, ce qui est d'ailleurs un maximum.
240, c'est pour le 2 et le 3 ou pour les deux ensemble?
Non, 140 chacun.
140 chacun. Oui, oui. D'accord, c'est 280 places.
Et donc, ces Ménilamlo 2 et 3 ont été construits. Ils sont pas encore en activité, mais dans le même dans la même enceinte que ce centre, ce nouveau centre de rétention, il y a ce qu'on appelle l'annexe du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Meaux. C'est-à-dire que au lieu de passer d'aller à Meaux et de passer au tribunal dont le tribunal dont j'ai parlé tout à l'heure, il serait traité entre guillemets sur place, et ça pose énormément de problèmes. Ça pose des problèmes d'une part par rapport à l'indépendance de la justice, parce que cette annexe du tribunal se trouve à l'intérieur de l'enceinte, et cette enceinte est gérée par le ministère de l'Intérieur et pas par le ministère de la Justice. Donc ça, c'est le premier point. Le
deuxième,
absolument. Le deuxième point, c'est que c'est une justice d'exception, dans la mesure où la justice doit être rendue, et les juges et les avocats sont tous d'accord pour dire ça, la justice, elle doit être rendue à l'intérieur de la ville, dans la cité.
D'accord.
Et pas dans un endroit qui est dédié à expulser les gens. Mmh. Et à Pétaouchnok, puisque c'est à Pétaouchnok, dans le sens où les audiences normalement sont publiques, elles sont publiques de par la loi. Donc là, ça va poser deux problèmes. Ça pose le premier problème, c'est l'accès, parce que c'est loin, c'est difficile d'accès, c'est au bord des pistes. Le village du Ménilamlo est au bord des pistes. Donc ça pose un accès pour le public, pour les avocats et pour les juges. Et puis deuxièmement, ça pose un problème d'accès aussi à l'intérieur, c'est-à-dire que les gens qui vont venir vont être comme c'est une enceinte ultra sécurisée.
Ouais.
Ça veut dire des contrôles et la difficulté à accéder aux salles d'audience. Donc on voulait réagir par rapport à ça, le dénoncer. D'ailleurs,
c'est le déménagement, ouais. Précisément le déménagement.
Ce qu'on appelle la délocalisation. Bon, alors c'est pareil, c'est pas encore en activité, mais bon, ça ne saurait
tarder.
Donc, on a demandé à un certain nombre d'élus et d'avocats et de magistrats de faire une visite de ce centre pour constater par eux-mêmes les conditions de rendu de la justice dans cette justice d'exception. Et donc, ils l'ont fait. Il y avait Noël Mamère, il y avait deux sénateurs, un sénateur et une sénatrice, il y avait un certain nombre de magistrats, d'avocats, et en plus on est arrivé à faire rentrer France 3 et Canal Coquelicot, donc ils ont effectivement filmé
qui est la télé locale.
Oui, qui est une télé de proximité.
D'accord. Donc une action quand même qui a été pas mal soutenue.
Donc il y avait ça, qu'on avait popularisé par des distributions de tracts sur les raisons pour lesquelles on faisait cette action.
D'accord.
À Meaux en particulier. Et j'ai dit qu'il y avait deux rassemblements, c'est-à-dire que le premier au Ménilamlo, le deuxième était à Meaux, devant le tribunal de grande instance.
D'accord.
Et là c'était plus que symbolique, puisque c'est là que se passait jusqu'à maintenant et se passe toujours les jugements du juge des libertés de la détention.
D'accord.
Donc là, il y avait un cercle de silence. Et ce qui a permis, entre autres, de discuter avec un certain nombre d'avocats qui sortaient et qui rentraient dans le tribunal et qui n'étaient pas au courant de cette délocalisation.
D'accord. Avant de faire une petite pause musicale, on va peut-être donner les coordonnées des différentes permanences de RESF.
Ça risque d'être un peu long.
Ça risque un peu long.
Oui,
ça risque. Bon, alors on va envoyer la musique.
Non, ce qu'on peut dire, mais je pense que ça sera repris à la fin, c'est que sur le site national du réseau éducation sans frontières, je suppose que tu donneras le.
Ouais, bon, tu peux donner maintenant.
Alors c'est www.education-sans-frontières-sans-rien avec un s à la fin .org. Et si vous allez sur ce site, vous avez à gauche une colonne vert clair, et si vous faites défiler, vous avez tous les départements.
D'accord.
Et quand vous arrivez à 77, ça rouvre une autre fenêtre où il y a contact. Et là, si vous cliquez sur contact, vous avez toutes les permanences de Chel, de Noisiel, de Pont-au-Combeau, de Melun. Toutes les permanences du 77. Quoi.
Ok. Donc, c'est noté. Alors, avant de passer à Turbulence, donc Yves a encore deux trois choses à nous dire à propos de RESF. Donc, on parlait de l'observatoire donc qui avait été mis en place par RESF, la CIMAD et puis d'autres organisations pour surveiller le centre de rétention administrative du Ménil-Amelot qui donc se trouve juste à côté des pistes de Roissy. Et donc il y avait déjà un problème. Enfin, le problème principal c'était donc la délocalisation du juge des libertés depuis le TGI de Meaux vers donc le Ménil-Amelot, et a priori cette délocalisation n'est pas tout à fait légale au vu de la loi LOPSI qui est passée il n'y a pas très longtemps.
Ben non, c'est pas tout à fait ça.
C'est pas tout à fait
en
ça.
Fait, si, c'est légal, mais le Conseil constitutionnel a dit que il était interdit de rendre la justice dans les centres de rétention. Sauf que entre dans et à proximité, il y a un flou.
Ah d'accord.
Et voilà. Et donc effectivement, au Ménil-Amelot 2 et 3, dont on a parlé tout à l'heure, il y a une enceinte générale, il y a une autre enceinte où il y a les deux centres de rétention, et il y a un autre espace où il y a. Donc c'est à proximité,
ah ouais, okay.
Donc il y a un flou, c'est pour ça qu'on a fait notre rassemblement.
Sur les mots, là,
voilà.
Un petit peu.
Pour l'instant, c'est pas en activité, mais on a quand même fait un rassemblement pour dénoncer ça.
Et vous avez tenté peut-être éventuellement des recours vis-à-vis de
Non, je crois pas.
Juridique.
Non. Ce que je voulais dire juste pour finir sur RESF, c'est que ce qui fait l'originalité, la force des RESF, c'est que dans l'ensemble, les collectifs naissent à partir d'un cas particulier. C'est-à-dire que il n'y a pas de création ex nihilo de collectifs RESF. Enfin, je pense pas. Mais disons, en tout cas, celui dont je fais partie et plein de la majorité des collectifs RESF naissent à partir d'un cas, d'une famille, d'un enfant ou de plusieurs enfants dans des écoles. Et c'est à partir de là que se créent et les collectifs.
Ce qui fait la force, comme tu disais tout à l'heure, quand il y a une personne, un cas particulier, là, c'est ce qui fait la fédération autour de ces personnes.
Je voulais juste rajouter ça.
Eh ben, très bien. Donc maintenant, on va passer à une autre organisation, une association, donc, du 77, qui est membre de RESF. Voilà. Donc, avec Romain, qui fait partie de l'association Turbulence. Donc, même punition que pour Yves, une petite présentation un petit peu de Turbulence. Le projet, un petit peu les personnes, le public, et puis surtout le lieu d'intervention de l'association.
Alors Turbulence, c'est une association qui existe depuis 15 ans sur Marne-la-Vallée. Donc Marne-la-Vallée, on agit principalement sur Champs, Logne, Torcy, Noisiel, mais bon, sur les autres communes de Marne-la-Vallée aussi. Donc les missions de Turbulence, donc on en a plusieurs.
Mmh.
Alors là, moi je suis à la commission sans papier.
D'accord.
On a une commission VIH/SIDA aussi.
Mmh.
On a une commission homophobie.
Ouais.
On a une commission sexisme et on a une commission usage des drogues. Donc ça
D'accord.
fait pas mal de commissions.
Ouais.
On travaille sur toutes les discriminations à ce niveau-là. Pour les drogues, on a créé Turbulence a créé une autre association
okay.
qui s'appelle Émergence, qui est un CARUD, donc c'est un centre d'accueil et d'accompagnement pour les usagers de drogue.
Okay.
Donc il y en a deux en Seine-et-Marne, il y en a un donc ici, il y en a un à Melun.
Ok, donc là au niveau des drogues, c'est vraiment la mission, c'est un soutien aux personnes dépendantes, aux usagers. Donc c'est quoi un accueil? Qu'est-ce qui se passe?
C'est un accueil, c'est un accompagnement, c'est fournir du matériel qui est sain.
D'accord.
C'est proposer du dialogue,
seringue, ce genre de choses. D'accord.
Vraiment en étant dans un environnement sain.
Ok. Et par rapport aux autres thématiques, le SIDA et les discriminations, l'objectif, hein, alors c'est quoi? C'est de l'information, c'est du soutien.
C'est principalement de la sensibilisation, puisque on intervient dans les milieux scolaires, notamment au niveau du SIDA et de l'homophobie.
D'accord.
Voilà. Donc sinon au niveau des permanences, on a une permanence sans papier, donc dont je fais partie. C'est deux fois par mois, c'est le mardi soir, un mardi sur deux. Et donc on est une quinzaine.
Alors c'est juste quitte à annoncer la permanence, donc c'est la permanence donc, pour les sans-papiers, voilà, où est-ce qu'elle se trouve?
Donc elle se trouve à la Maison pour tous de Noisiel.
D'accord.
34 cours des Roches, donc à Noisiel.
À Noisiel. Et donc les horaires précis au niveau de c'était.
C'est à 18h30 et
voilà.
C'est jusqu'au dernier sans-papiers.
D'accord. qui arrive.
Voilà.
Ok. Ça marche, il y a des gens qui viennent, vous avez
On a beaucoup de monde, on a à peu près 25-30 sans papiers par soirée. Donc, ah oui. Donc c'est deux énorme. Fois par mois.
C'est ouais, énorme. Ça fonctionne. Donc ça fonctionne peut-être un lien avec RESF ou non ou,
Pas directement, mais des fois des dossiers un peu similaires, un peu sur la même configuration.
De toute façon, on travaille complètement en symbiose.
Oui, voilà, en partenariat.
On est très liés.
D'accord. Ah oui.
Puisqu'on est relais RESF, donc on fait partie du réseau
RESF. Partie, ouais.
D'accord.
Voilà, donc nous on est une quinzaine, 15-20 bénévoles, donc à prendre, on prend les sans-papiers par binôme, on les écoute, voilà, on essaie de reconstituer un peu leur histoire. On les invite à vraiment tout nous dire pour avoir le maximum d'informations, voilà, pour les aider à constituer un dossier, dont le but, c'est de le déposer en préfecture et d'obtenir des papiers. C'est pas toujours évident, ça prend beaucoup de temps.
On entend tout à l'heure.
Voilà, donc on a des dossiers qui se passent plutôt pas mal, on a des dossiers qui se passent beaucoup moins bien. Ça dépend, c'est vraiment variable. Ouais.
Mais alors, la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est quoi les critères ou les caractéristiques qui font que ça prend plus ou moins de temps? C'est arbitraire ou
voilà, c'est vraiment arbitraire parce qu'on a des dossiers qui sont similaires et qui peuvent prendre vraiment du simple au double voire au triple.
D'accord.
Voilà, c'est vraiment arbitraire. Ouais.
Non. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que presque chaque cas est unique.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a très très peu de cas vraiment vraiment similaires.
Oui.
Il y a des éléments qui sont les mêmes, mais très souvent les situations sont différentes, ce qui fait que
c'est un peu difficile quand même.
C'est difficile de
nouveau.
Oui.
D'accord. Peut-être d'autres choses sur les sans-papiers ou alors peut-être des choses plus des événements. Non,
pour dire que on y arrive quand même. On a quand même un peu de réussite puisqu'on a dépassé, il me semble, la 15e régularisation depuis le début de l'année.
Ah oui.
Donc on en est fiers.
Pas être petit du chiffre.
On
là,
en est fiers.
Un bon chiffre.
On en est fiers, voilà, sur les sans-papiers, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire.
D'accord, bon, c'est déjà pas mal. Et puis, je crois que vous faites aussi, vous organisez quand même des soirées, enfin, ou des événements autour de vos thématiques.
On a plusieurs événements. D'abord, on a une émission de radio sur Valais FM, qui est une radio locale, pardon. Donc, c'est une émission qui s'appelle Turbulence, qui a lieu tous les mercredis à 18h. Voilà.
D'accord.
Donc sur Valais FM.
Et Valais FM, ça s'écoute comment?
Ça s'écoute, j'ai pas la fréquence. J'ai
D'accord.
pas la fréquence, mais ça s'écoute à la radio, ça s'écoute sur Internet aussi.
Bon, voilà. Donc une petite recherche sur Internet.
Voilà, j'ai pas
Valais
pensé
FM
à prendre la fréquence.
Pour avoir la fréquence et le site. Ok.
Voilà. Sinon, récemment, on a eu un débat avec projection de film. Donc, on a projeté Ulysse clandestin. On a invité les gens à venir débattre autour de ce film et autour du thème des sans-papiers plus particulièrement. Donc, pour le débat, il a été animé par Hélène Lipietz, qui est avocate au barreau de Melun pour le droit des étrangers.
D'accord.
Et qui travaille étroitement avec nous à Turbulence pour tout ce qui est
suivi des dossiers.
Voilà, suivi des dossiers, et puis pour les défendre au cas où ils passent au tribunal administratif.
D'accord. D'ailleurs, est-ce que c'est facile de trouver des avocats pour défendre les sans-papiers?
Non.
Oui, c'est toujours facile de trouver des avocats. Après, c'est comme dans toutes les professions, il y en a qui sont honnêtes et il y en a qui sont pas honnêtes.
D'accord, okay.
Donc, et puis, surtout, il y en a aussi qui sont plus spécialisés que d'autres en droit des étrangers.
Mm-hmm.
Et puis, ça me permet de rajouter quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'observatoire de la rétention, il installe une présence au niveau du centre de rétention, mais aussi au niveau du juge des libertés de la détention,
D'accord.
donc du tribunal, et du tribunal administratif de Melun.
Okay.
Puisque très souvent, effectivement, les sans-papiers passent au tribunal administratif de Melun.
Et puisqu'on parlait d'avocats, c'est un coût, la rémunération des avocats, non? Vous arrivez à... Comment ça se passe?
Alors, au niveau de la rémunération des avocats, il y a un système qui est en place, c'est l'aide juridictionnelle.
Mm-hmm.
Donc, en fait, c'est l'État qui rémunère l'avocat quand il y a procès, donc, à condition que l'avocat gagne le procès.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Donc si la personne n'est pas régularisée, par contre, c'est à vous de payer l'avocat?
Je ne sais pas comment ça se passe si la personne n'est pas régularisée, parce que jusque-là, on n'a eu que des régularisations.
D'accord,
suite à des procédures judiciaires, donc je touche du bois. Mais en fait, l'aide juridictionnelle, elle est mise en place donc pour les sans-papiers, puisqu'il y a des conditions de ressources,
ouais,
notamment.
C'est-à-dire de ressources.
Il faut pas que le sans-papiers gagne plus d'une certaine somme par mois pour avoir droit à l'aide juridictionnelle.
D'accord.
Ce qu'on fait par rapport à ça, là, par rapport aux avocats, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un certain nombre de manifestations générales ou de présence de stands dans des forums d'associations, des choses comme ça, où on vend des bouquins, des brochures et tout ça, et puis des manifestations artistiques où par exemple des artistes s'engagent à reverser 50% à RESF, et c'est principalement pour payer les avocats quand on a besoin de les payer.
D'accord.
Pour aider, parce que on n'est pas non plus on fait pas ça systématiquement, ou plutôt on demande à la personne si elle peut participer à payer son avocat, et nous on complète.
D'accord. D'autres événements, je crois, du théâtre.
Oui, il y a eu une pièce Histoire de vie qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, donc qui avait pour thème le SIDA. Voilà, on essaie de monter des petits événements comme ça pour sensibiliser et faire réagir un peu sur ces thématiques qu'on défend.
Et l'accueil au niveau local, alors dans le 77, je sais pas, c'est comment vous avez quelle importance, quelle place vous avez un peu dans le paysage culturel ou social du 77.
Comme on a des missions qui sont diversifiées, comme on a beaucoup de temps d'existence, 15 ans, c'est pas rien. On est quand même assez connu sur la vie locale, et puis on est toujours en train de faire des événements. On est toujours présent, on a toujours la permanence, donc on est toujours visible au niveau local.
Donc vous êtes devenu pas une référence, mais quelque chose qui est assez actif, vu.
Ouais,
d'accord. Donc Romain, avec toi, on va aussi parler de la nouvelle loi Besson.
Oui.
Voilà, et donc Yves pourra naturellement intervenir à propos de cette nouvelle loi, puisque comme tu le disais, donc tu t'occupes plus précisément de son papier au niveau de Turbulence.
Tout à fait.
Et donc cette nouvelle loi Besson qui passe actuellement, ou qui est passée, alors je sais pas, j'ai pas suivi
l'année. Elle est passée.
D'accord. Ouais. Donc modifie profondément a priori les conditions un petit peu, donc on va dire d'obtention de régularisation de manière un peu compliquée, c'est ça?
Oui, complètement. Donc pour cette loi, il y a 8 grandes régressions, on va dire. Donc on va essayer de les énumérer un peu rapidement.
Juste une seconde. C'est la 7e loi depuis 2002 sur l'immigration. La 7e.
D'accord.
C'est vrai. Donc premier point, au niveau des étrangers qui sont malades, donc jusque là il y a un titre de séjour qui s'appelle le titre pour soins, qui est accordé aux personnes qui arrivent malades et qui n'avaient pas la possibilité de se soigner dans leur pays. Donc bien sûr tout ça il fallait le prouver, c'était déjà pas évident. Mais il y en avait pas énormément puisque c'est pas la vocation première à l'immigration, on va dire, la recherche de soins. Maintenant, c'est rendu beaucoup plus difficile puisqu'il y a une subtilité dans la loi, il y a quelque chose qui a changé, c'est que, en fait, maintenant, on ne régularise que si le traitement est absent.
Du pays d'origine.
Le traitement est absent,
d'accord,
ça veut dire qu'il n'existe pas dans le pays d'origine. Et ça ne prend plus en compte l'accessibilité au traitement.
D'accord.
C'est-à-dire si les gens ont les moyens de si
c'est un pays où il n'y a pas de sécurité sociale et que la personne est très pauvre, par exemple,
voilà.
On dit c'est présent, donc on n'accepte pas.
Exactement.
En plus, les thérapies sont chères.
Et puis, qui sont pas forcément proches du lieu d'habitation de la personne.
Oui, aussi, bien sûr. Voilà. C'est problématique qu'on peut avoir.
Donc, il y a ce changement qui est vraiment un tournant pour les étrangers qui sont malades, qui ont déjà un handicap à la base, donc la maladie, qui parfois sont des maladies qui sont très graves. Et c'est vraiment une menace sur toute la santé et la santé de ces personnes-là, puisqu'elles seront reconduites dans leur pays sans aucun accès aux soins.
D'accord.
Donc pour les étrangers malades, voilà ce qui a changé et ce qui est assez scandaleux. Pour la durée d'enfermement, donc on en a parlé un peu tout à l'heure, elle passe donc de 32 jours à 45 jours. Donc la raison, c'est que les consulats pour les expulsions sont censés délivrer des autorisations.
Oui.
Et en 32 jours, elles n'avaient pas forcément le temps de le faire.
D'accord.
ils n'avaient pas forcément le temps de le faire, donc maintenant on leur laisse 45 jours.
Donc, pour... donc là on parle bien de l'enfermement, donc 45 jours dans voilà. les centres de le CRA, les centres de rétention administratif.
Oui, là-dessus je voudrais rajouter quelque chose. En fait, c'est soi-disant pour effectivement donner
le
temps au consulat mmh. de délivrer un laissez-passer. Or, on se rend compte, et il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus, ou enquêtes, que la majorité des expulsions se passent dans les 17 premiers jours. Donc ça veut dire que c'est une mesure de punition. C'est-à-dire c'est pas l'argument pour de dire il faut plus de temps pour pouvoir expulser mieux et avoir le laissez-passer, c'est bidon complètement.
D'accord,
parce
alors...
que la plupart du temps, c'est entre le 10e et le 17e jour, 90% des expulsions sont faites et les laissez-passer sont délivrés.
L'objectif, il est où alors
c'est de pénaliser, de punir les étrangers sans papier.
D'accord.
Ça, les stigmatiser.
C'est clairement ça. Enfin, toute la loi, de toute façon, est basée là-dessus. Mmh. Mais ça, c'est vraiment un point.
Autre régression, alors il y en avait 8, on a fait 2.
Ouais. Donc la limitation du rôle des juges des libertés,
ouais.
dont on a parlé tout à l'heure aussi. Donc comme on l'a dit, jusque-là c'était 48 heures après l'arrestation
mm-hmm.
que le sans-papier passait devant le juge des libertés. On rappelle que le juge des libertés, il sert à voir comment s'est déroulée l'arrestation et l'enfermement. Et donc à annuler la rétention s'il y a eu un vice de procédure ou quelque chose comme ça. Donc maintenant c'est 5 jours. Donc
d'accord.
ça veut dire que potentiellement l'expulsé peut être expulsé le sans-papier lapsus.
Ouais.
Le sans-papier peut être expulsé avant d'avoir vu ce juge.
D'accord.
Donc ce qui est absolument pas conforme à la justice
voilà, oui,
au fonctionnement de la justice française, c'est pas un fonctionnement qui est normal. Et voilà, au niveau du juge des libertés.
Mm-hmm.
Quatrième point, le bannissement du territoire européen, c'est quelque chose qui est nouveau, puisque maintenant les expulsés peuvent être interdits de retour sur les territoires français, voire sur les territoires européens, pendant 2 ans à 5 ans.
D'accord.
Ce qui est énorme.
Mais la décision est prise alors au niveau national, la décision est prise pour l'ensemble, on va dire, de en gros l'espace Schengen, j'imagine.
Voilà.
C'est ça.
Voilà,
d'accord.
Tout à fait.
Donc en gros le juge français ou la France peut décider que une personne ne peut plus mettre les pieds sur l'espace de Schengen pendant 2 ans.
Jusqu'à 5 ans, ouais.
Jusqu'à 5 ans. D'accord.
Et ça concerne absolument tout le monde. Ça peut être des familles de sans-papiers, ça peut
ouais.
être des couples, ça peut être des gens qui aient des sans-papiers qui habitent en France depuis des années, depuis des années. Et ça aussi, c'est assez incompréhensible, assez insupportable à imaginer.
Est-ce que c'est en lien avec une directive européenne quelconque ou est-ce que c'est une initiative non, c'est pas là.
Je sais pas, je sais pas.
Transcription dans la loi nationale d'une directive européenne, je sais pas.
Non, mais par contre, avant, effectivement, même les étrangers qui étaient expulsés, pouvaient revenir, certains pouvaient revenir
ouais.
parce que ils étaient conjoints de quelqu'un d'un français ou parents d'enfants français ou donc ils pouvaient redemander des visas sur place
mm-hmm.
et effectivement revenir avec des visas long séjour ou
d'accord
alors que là c'est vraiment c'est le bannissement quoi tout simplement
complètement
bon
cinquième point sur les Roms. Puisque les Roms, depuis que Viviane Reding, à la Commission européenne, avait un peu tiré la sonnette d'alarme, on n'en avait plus beaucoup entendu parler, mais ils sont de retour dans le texte, alors sans être nommés directement,
mm-hmm.
parce que sinon ça ferait mauvais genre.
Quelle est leur dénomination officielle ?
Alors on parle de d'étrangers qui abuseraient d'un court séjour. C'est écrit tel quel dans le texte,
mm-hmm.
Donc c'est-à-dire qu'ils multiplieraient les allers-retours dans le but de se maintenir sur le territoire.
D'accord.
Et qui constituerait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du pays.
Okay.
Hein, on va loin quand même.
Ouais.
Donc c'est ces gens-là qui dans le texte hein, sont inculpés de vol, de mendicité agressive, pardon, ou d'occupation illégale de terrain public ou privé.
C'est vraiment la périphrase, là, quand même. Là.
Ah, c'est vraiment... qui engendrerait des troubles à l'ordre public. Okay. Voilà, donc ces gens-là, eh bien, ils n'auront plus le droit, puisqu'ils instaurent un abus, comme j'ai dit, de court séjour.
D'accord.
Donc ils seront passibles de bannissement aussi, et tout ce qui s'ensuit.
Ok. Enfin, de bannissement, pas de l'espace de Schengen, puisque a priori.
Ce sont des citoyens européens, mais ils sont étrangers au jeu de la loi.
D'accord.
De la loi française. Donc, ils sont susceptibles d'être bannis de leur propre espace. C'est vraiment un peu.
C'est bizarre parce qu'il y avait justement à propos de Rome, il y avait ce système un peu absurde où on les expulsait, mais comme ils étaient dans l'Europe, enfin ils pouvaient rentrer quand ils le voulaient. Donc mais là, est-ce que non, il y a pas de ça change pas. C'est juste en fait, non, c'est non, juste pour dire vraiment les Roms, voilà, on peut les foutre dehors parce que ils abusent du système social. Enfin, ils sont une charge déraisonnable pour le système social.
Mais c'est la cible idéale puisque comme ils sont citoyens européens, ils ont le droit d'aller venir dans l'espace Schengen.
Et ça on a inventé quand même, enfin pas inventé, mais on a vraiment déterminé ces critères un peu très spécifiques pour que pouvoir se débarrasser plus facilement de.
Ah oui complètement. D'accord. Et puis ça permet au gouvernement de d'atteindre ses quotas. Puisque c'est des gens qui reviennent après 3 mois d'absence en France, qui reviennent et ils sont comptés en deuxième expulsion. Et
une même personne peut faire l'objet de plusieurs expulsions pendant l'année, donc ça fait
ça fait grossir les chiffres et ils s'en félicitent et
bon
voilà.
Parler de décision politique, là, je pense qu'on.
Oui, je pense que c'est toutes les mesures là de cette loi, tous les articles de cette loi. Sont faites uniquement effectivement pour punir les sans-papiers, enfin pour
afficher aussi une fermeté, de guéant.
Oui, mais c'est plus que ça, c'est plus qu'une fermeté, c'est un rejet
pas implicite, quand je disais une fermeté vis-à-vis d'électeurs qui veulent de la poigne. D'autres régressions, je crois qu'il en reste. J'ai pas fait le compte macabre.
Autre point, la création de zones d'attente mobiles. Donc en fait, une zone d'attente, c'est un endroit où on regroupait les sans-papiers, où on regroupe toujours d'ailleurs, les sans-papiers en attente d'expulsion, donc du moins qui venaient d'arriver sur le territoire, donc dans le but de les expulser le plus vite possible. Donc c'est des zones qui sont situées dans les aéroports, dans les ports, dans les gares, dans les grandes gares, etc.
D'accord.
Et maintenant, on va créer les zones d'attente mobiles. Donc, c'est des zones d'attente qui en fait sont partout. Partout et nulle part à la fois. C'est des zones qui se créent automatiquement à partir du moment où on a un groupe de 10 étrangers qui arrivent en même temps sur le territoire français. Donc, ça peut être vraiment n'importe où, sur une plage, ça peut être...
N'importe où.
Vraiment
et
n'importe où.
Et c'est quand on met un Algeco et puis comment ça se fait, ça veut dire quoi?
Concrètement, je sais pas comment ils vont faire, mais au jeu de la loi, il y a une zone d'expulsion, enfin une zone d'attente, ils appellent ça, qui se crée à partir du moment où il y a au moins 10 personnes qui passent la frontière.
Quelles sont les caractéristiques légales de cette zone là? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe.
Bah, je pense que c'est ils pourront enfermer les gens jusqu'à ce que pareil on les mette en rétention ensuite et qu'on
c'est donc, on essaie moyen de pouvoir les parquer en attendant de pouvoir les envoyer ailleurs quoi.
C'est né à la suite de ce qui s'était passé de l'arrivée des Kurdes en Corse.
D'accord, ouais, je pense que...
Où en fait, effectivement, ils les avaient répartis dans les centres de rétention alors que c'était pas normal puisque ces gens avaient le droit de faire une demande d'asile, sauf que comme ils étaient en centre de rétention, c'était pas possible. Ils sont passés devant la justice, devant les juges des libertés de la détention, qui les ont tous été libérés. Et en fait, c'est aussi une des particularités de cette loi, c'est de régler ses comptes avec la justice. C'est-à-dire que si le juge des libertés de la détention est passé de 2 jours à 5 jours, que la personne le voit au bout de 5 jours au lieu de 2, c'est de façon à ce que enlever de l'importance et l'expression du droit du retenu est réduite.
D'accord.
Donc les zones d'attente variable, c'est exactement ça. C'est pareil pour court-circuiter.
Pour éviter qu'ils puissent aller devant le juge plus facilement. D'accord. Bien.
Autre point, parce qu'on n'a pas terminé. D'accord. Autre point, peut-être, ça dépend comment il est interprété, le moins pire de la loi, qui parle des employeurs, donc les employeurs d'étrangers sans titre de séjour, que le gouvernement souhaitait sanctionner, puisqu'ils employaient des gens sans titre de séjour. Et finalement, c'est inscrit dans la loi, ils seront exonérés de responsabilité s'ils sont de bonne foi. Donc c'est écrit textuellement « de bonne foi » dans la loi. Après, à voir ce que c'est que la bonne foi. Est-ce que ça passe par une aide à avoir un titre régulier de séjour, donc un titre par le travail, ou est-ce que c'est simplement de la délation ? On ne sait pas exactement, donc d'accord. On va partir du principe où c'est plutôt positif, puisque c'est quand même une loi qui est très très négative dans l'ensemble, donc on va, pour contrebalancer, on espère un peu de positif, mais il faut rester prudent là-dessus.
Et donc cette loi, donc, elle a été votée, donc tu disais Yves, elle est passée,
est-ce que elle est passée.
D'accord.
Ouais, c'est-à-dire qu'elle a fait la navette Assemblée-Sénat et... si mes souvenirs sont exacts, je crois qu'elle est passée devant le Conseil constitutionnel.
Bon.
Et qui a été sans modification majeure, quoi. Même du tout, quasiment. Ça veut dire que, parce que bon, une loi, il faut qu'il y ait des décrets d'application.
Des décrets d'application, bien sûr.
Mais alors quelquefois, ça peut être très rapide, comme ça peut être. Il y a des lois qui ont été votées il y a des années, qui n'ont jamais eu de décret d'application. Ou alors les décrets ont été signés très très longtemps après. Mais là, s'ils veulent, ils peuvent effectivement
très rapidement mettre en place.
Place les décrets. Oui.
Ouais. Malheureusement, ça fera un peu plus de boulot pour RESF et Turbulence.
Après. Oui, absolument. Ouais.
Bon, d'autres choses non sur la loi ou...
Oui, il reste un dernier point, le dernier. La création d'un délit de mariage gris. Donc ça, c'est complètement nouveau. Donc, on connaissait le mariage blanc, donc qui est le mariage de complaisance. Maintenant, on parle de mariage gris. Donc c'est un mariage.
Ils s'aiment mais un petit peu, c'est ça seulement.
Pas comment assez.
Non, je sais pas. Ils s'aiment mais juste un petit peu. Pas
voilà, c'est presque ça. C'est un mariage entre un étranger donc et une personne de nationalité française. Qui se sentirait abusé par le sans-papier, par
trompé,
la personne étrangère qui aurait
tromperie
été trompée
volontaire.
Voilà. Donc
ça veut dire quoi? Enfin, c'est
ça, c'est pareil, ça veut tout et rien dire. Et c'est bon. Passible comme les mariages blancs de 5 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende quand même.
Mais ah ouais, ok. Mais c'est là, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi? C'est à l'initiative du conjoint français qui doit dire j'ai été abusé
voilà.
par mon conjoint. Bon, ok.
Voilà.
Surprenant.
Ce qu'il faut savoir, alors ça c'est pareil, c'est vraiment une mesure politique, parce que ça représente les mariages gris, ça représente 0,4% des mariages entre personnes de nationalités différentes. Donc
c'est faire rentrer dans la loi des cas très particuliers.
Ah oui, complètement.